Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 171. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Bienvenue en 2018.
Bienvenue en 2018, j'ai l'impression que ça fait...
Moi, je pense qu'on s'était pas vu, là, qu'on s'était pas parlé comme ça là, de cinéma. Hein? Là.
Plus qu'un mois, puis j'ai l'impression que dans nos vies respectives, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Je regardais un peu les notes que j'avais prises pour le dernier podcast. Donc, c'est assez impressionnant. Mais là, premièrement, nous, on va quand même... on veut jaser de Pascal Plante. Toi, tu reviens... Tu reviens de Slam Dance. Ouais. Et faut quand même parler un peu du parcours de Les Faux Tatouages, parce que c'est vraiment remarquable. Nous on l'a vécu à distance, puis on veut un peu tes impressions. Déjà, parmi les faits, le film a quand même une mention du jury à Sundance.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, le film a été acheté, en fait, par Séville International pour tous les droits, donc, hors du Canada, c'est bien ça?
Ouais, ben en fait, eux autres, ça, c'est un agent de vente. Fait que okay. Eux, dans le fond, à partir de là, eux autres, ils vendent le film. Leur but, c'est de réussir à, je sais pas, le vendre aux États-Unis, le vendre en Espagne, en France, en Belgique, whatever. Puis là, ben, c'est bien excitant parce que c'est le European Film Market, puis Berlin, puis tout ça. C'est beaucoup là que ça se passe. Donc oui, on est en partenariat avec Séville International, en fait, pour les ventes internationales, donc.
Puis là, c'est ça, puis là, le film prend la fiche dans à peine 3 semaines au Québec, là, à Montréal notamment.
Ouais, c'est ça. À Montréal, c'est au Quartier Latin, c'est ça, Cineplex, là. Ouais. Puis il va avoir, après ça, la semaine d'après, Laval-Rive-Sud, puis la semaine d'après, Québec-Sherbrooke, puis Gatineau, si je me trompe pas. Fait que déjà, ces 3 semaines-là, là, cette espèce de plan d'expansion-là, au fur et à mesure.
C'est incroyable, mais...
Ouais, ben...
Les Faux Tatouages, ce qui est vraiment hot, c'est que, tu sais, ça reste un petit film, là. C'est pas un gros budget, c'est fait avec, tu sais, très peu de comédiens, c'est une petite histoire intime. C'est le genre de film que, des fois, au Québec, c'est plate, mais c'est... Tu sais, peu importe la qualité du film... tu tombes dans mauvaise case, puis finalement, le film, il est un peu dans le néant, là. Puis là, on dirait que toutes les as se sont alignés, puis le film, il est super bon, mais en plus, toutes les as se sont alignés, puis t'as comme tous ces trucs-là qui ont déboulé, puis c'est comme, c'est bravo, là,
ouais,
c'est vraiment...
Non, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu fou, mais tu sais, je me considère vraiment, vraiment chanceux, là. Tu sais, il y a plein de gens, des fois, qui ont des films qui ont une certaine valeur, puis des fois, même ces films-là, ils peinent un petit peu à trouver leur air d'aller, puis là, nous, on a été, c'est comme un peu, il y a un bon momentum, là, il y a des bonnes nouvelles qui s'accumule, fait que, écoute, on va le prendre.
Ben oui, puis moi, je tiens quand même à dire au podcast une anecdote que, tu sais, j'étais à mon bureau, donc, à Technicolor, et soudainement, tu sais, pour X raisons, je fais une vérification sur le site IMDB, tu sais, comme l'un des plus gros sites web au monde, puis là, sur la page d'accueil, je scroll, puis là, je vois une photo des Faux Tatouages en page d'accueil d'IMDB, là, je me mets à crier dans le bureau, puis à capoter. Puis je prends un screenshot avec mon cell, ça, je le partage sur mon Facebook. Puis là, mes amis, mes collègues sont comme « Hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? » Puis je suis comme « Ah, mon Dieu, mon ami a un film sur la page IMDB de l'accueil. » Puis là, je te textais Pascal, puis j'étais full excité. J'ai texté Catherine. Puis là, bon, vous l'avez partagé également sur votre page, tout ça, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Ou est-ce que ça a été comme un gros symbole? Ou est-ce qu'il y a d'autres comme événements comme ça parmi ton aventure à Slam Dance qui t'ont fait réaliser comme... Waouh, il y a vraiment un buzz, il y a des gens qui en parlent. Ou...
Ben, attends un peu. OK, c'est fucking drôle. Parce que là, tu sais, Catherine Lefrançois, donc la productrice que je suis allée au passage, elle a IMDB Pro. Puis tu sais, IMDB Pro, tu peux voir là, le star ranking là, sur IMDB. Là.
Ouais.
Puis là, genre, notre film, là, c'était comme... Là, mettons, moi, mon star ranking, là, en une semaine, il a genre monté de 500 000. Là, c'est comme, wow, what the hell. Puis le film, il est comme genre le 7000e... Ouais, aux dernières nouvelles qu'on a regardées, mais tu sais, c'est sur tous les films ever là, qui sont cliqués sur IMDb, mais tu sais, il était... Fait que c'est vraiment drôle, en fait, il était comme un peu... disons qu'avant ça, au Québec, c'est cool, tu sais, les gens qui me connaissent, puis qui connaissent le cinéma québécois, tu sais, le film, il y avait une certaine... Il était peut-être sur le radar de certaines personnes et tout ça, mais là, il y a comme... C'est comme si il se ramasse un peu dans le vrai monde, puis tu sais, moi, IMDb, moi, je suis devenu cinéphile en parcourant IMDb, là, dans le bon vieux temps des message boards, puis que c'était bien important là, de commenter sur tous les films. Puis genre, j'ai passé le top 250 au complet quand j'étais ado, tout ça. Donc, c'est sûr que le petit gars en moi, il est vraiment... c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais moi, il y a certaines choses que je comprends pas de la game un peu, tu sais, des ventes puis de l'exposure d'un film. Puis nous, par exemple, on a eu une super bonne review dans The Hollywood Reporter. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mm-hmm. Puis, mais genre, j'avais comme pas réalisé l'ampleur de ce que ça donnait. Genre, tu sais, Hollywood Reporter, c'est comme si t'as ça puis Variety, t'es comme, t'es seté, là. C'est genre le plus gros... la plus grosse étampe d'approbation que tu peux avoir.
Parce que ça aussi, c'est des magazines qui sont beaucoup plus axés. C'est que le lectorat est beaucoup, en fait, celui de l'industrie. Tandis Exactement. Que d'autres sites web, c'est peut-être plus le public. Tandis que c'est ça, exact. Ces deux-là, c'est vraiment comme qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie. Puis même Variety, exact. Souvent, ils vont préciser quel est le potentiel de box-office dans leur critique de film.
Non, c'est ça. Puis en plus... là, c'est pas encore paru, mais Variety, je vous le lance en primeur, là, on va avoir un coverage, un article là, à Berlin, en fait, sur le film dans Variety. Fait que là, d'avoir les deux,
oh
c'est comme, c'est un peu une scène, là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, mais genre, c'était vraiment drôle parce que là, il y a eu la critique est sortie, puis le lendemain, genre, au festival, tout le monde parlait juste de ça, là. Genre, j'ai comme croisé, je sais pas, moi, j'étais allé au petit déjeuner le matin, là, ben veg, là, les yeux dans la graisse de bin, puis là, genre, tout le monde était comme, oh my god, t'as une review dans Variety, puis, voyons, dans Hollywood Reporter, puis. Moi, j'étais comme, ben, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice, mais comme, j'avais comme peut-être pas réalisé l'ampleur.
Ouais, l'ampleur de la chose.
J'étais un peu happy-go-lucky, là, en ce moment, là-dedans, puis c'est bien correct, ben, je m'amuse. Pis,
ben, il faut que tu restes comme ça aussi, là.
Ouais, ben oui.
Justement, il faut pas que ça dégénère, puis tout, le fait que tu restes aussi simple autour de ça, ouais. C'est ça qu'il faut, là. Ben, pour le type de cinéma ouais. que tu fais en plus, tu sais.
Non, c'est ça. Puis en plus, c'est drôle parce que.
Tu es super humain, super proche du monde, là. Ouais.
Ils sont drôles les reviews positives parce que, tu sais, moi, j'en vois plein, là, des flas dans mon film, là. Tu sais, dans le sens, il y a plein d'affaires, là, que je suis comme. Tu sais, moi, je donnerais un 7 sur 10 au plus haut, là, tu sais, dans un sens, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas. C'est pas parce que c'est mon film que c'est un film parfait, là. Fait que là, mais je dis ça, puis c'est vrai que c'est vraiment comme ça que je pense, puis. Fait que j'étais un petit peu overwhelmed de l'amour perçu là, du film. J'ai juste l'impression que c'est peut-être c'est un film qui fait du bien, c'est un peu feel good. J'ai comme l'impression que c'est peut-être ça que les gens ont envie de voir en ce moment. Je l'explique difficilement, je t'avoue.
Ben, il y a aussi tout le côté. Ben, tu sais, puis encore une fois, c'est en dehors de la qualité d'un film, c'est que quand c'est une nouvelle voix, un nouveau cinéaste, un premier film de fiction, ou du moins, en tout cas, le premier film que tout le monde va voir de toi, là, ben c'est ça, c'est peut-être qu'il y a ce côté-là comme découverte, là, plus c'est comme rafraîchissant, tandis que si tu... Tu sais, mettons, Happy End, de Michael Haneke s'est fait ramasser, mais tu sais, c'est pas un premier film non plus, puis il y a les attentes qui viennent avec, là. Fait que, il y a ce côté-là, je pense que tu peux surfer là-dessus, là. Mais, puis aussi, j'imagine, là, c'était comme un peu la première fois que tu avais autant de feedback de non-Québécois aussi, parce que c'est une chose qu'un film québécois ait un succès, mais c'est quand même super cool l'accueil, en fait, que tu as eu dans un festival étranger, un festival international.
Ben, en checkant les reviews, c'est ça que je trouvais vraiment cool, parce que ils parlent du naturel des comédiens, puis du naturel des dialogues, mais... Tu sais, le film reste très québécois, là. C'est du naturel québécois, puis c'est un type de langage, c'est loin du cinéma français, les gens sont habitués de voir des films francophones français, puis tu sais, on se demande comment les intonations québécoises, comment le flow peut être perçu, puis les reviews parlent du naturel, justement, des comédiens, puis c'est cool qu'ils puissent capter ça dans l'ensemble. Tu sais, c'est un film de dialogue. T'as une scène de au-dessus de 10 minutes de en plan séquence, juste un dialogue. C'est, tu sais, si ça peut être perçu à travers le jeu des comédiens, puis sans que ça soit à travers mettons, de la justesse des dialogues, vu qu'ils comprennent pas la langue. Ouais. C'est malade, là. C'est malade que ça puisse passer par le film quand même, là.
Ouais. Non, c'est ça. On en a quand même parlé beaucoup en bien. Mais je pense que les gens s'identifient, là, définitivement. Il y a quelque chose de l'universel. Mais en même temps aussi, faut assumer que, si on, tu sais, à leurs yeux, là, on est un film étranger. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'il faut accepter l'exotisme, là, un peu de la langue de Montréal, qu'est-ce que ça évoque chez les gens. Puis je pense que, tu sais, mettons, si moi je vois un film iranien puis que je me reconnais à fond dans les personnages, ben, tu sais, dans une culture qui est, par exemple, complètement différente, ben, il y a comme, c'est comme si il y a deux facettes qui sont assouvies, tu sais, c'est comme on a voyagé avec un film dans une autre langue, dans une autre culture, mais en même temps, on se retrouve puis on retrouve l'humain, finalement, derrière les thèmes, puis peu importe c'est qui, puis quel pays et tout ça. Puis juste pour dire, c'est ça, définitivement, ce côté-là a vraiment bien passé. Fait quoi, non, écoute, puis la mention, ça, c'est vraiment, vraiment la cerise sur le sundae. Je peux parler des films un peu spécifiquement. Moi, je l'ai vu, le film qui a gagné, le film de fiction qui a gagné le prix du public et le prix du jury, là. Déjà, ça fait rare que le film gagne les deux, là.
C'était Mad Max Fury Road, hein, c'est ça?
Ben, là, tu parles du jury de Slamdance ou Sundance?
Slamdance. Puis après ça, je vais faire vraiment un tour d'horizon très, très, très rapide. J'ai vu certains films aussi à Sundance. Fait que c'est ça, juste rapidement, le film qui a gagné à Slamdance, ça s'appelle Rocksteady Row de Trevor Stevens. C'est un genre de film de passion des jeunes qui viennent de sortir de l'université, OK? Déjà, c'était vraiment drôle là, à Slamdance, comme il y a seulement à peu près genre 8 films en compétition, en fiction, puis après ça en doc, puis il y a certains films dans des sections de présentation spéciales. Ah, déjà, il faut savoir que c'est une compétition pour des premiers films aussi, fait que déjà, il y a ça. Mais tout ça pour dire que on est là, donc il n'y a pas énormément de films, c'est un festival quand même de modeste au niveau de son infrastructure. Puis là, genre, il y a une soirée où tout le monde se présente, un petit tour de table avec tout le monde dans l'amphithéâtre, on se lève debout, ah, bonjour, moi je m'appelle Pascal Plante, j'ai fait les faux tatouages, ça parle de ça. Puis après ça, on fait le tour de tous les cinéastes présents. Puis là, maintenant, comme il y a des gens qui se lèvent, ah ouais, moi je suis le focus pooler de Rocksteady Row. Ah, moi je suis troisième rôle dans Rocksteady Row. Ah, moi je suis le DOP de Rocksteady. Puis là, ça arrêtait pas. Il était genre 25 de leur équipe. Les autres, là, ils ont dû faire le road trip. Mais tu sais, genre, une espèce d'énergie là, de projet de passion de des jeunes qui ont crissement du guts, là, qui viennent de sortir de l'université, là, puis qui se sont dit, genre, on fait un esti de film de genre déjanté, tu sais.
Ok, je. En fait, moi j'ai dit, Mad Max Fury Road, c'était juste une joke, là, ça fait aucun rapport.
Ah,
c'est
mon dieu!
Sur le film.
Ah non, mais ok, je pensais que tu savais parce que c'est un
non,
genre
non,
de
non,
film.
Non, c'est vraiment juste une joke.
C'est parce que c'est un film de genre post-apocalyptique.
Ah, ok!
Ouais, c'est ça. C'est comme un genre de film d'université, fraternité, donc dans ce genre de campus universitaire, mais délabré. Là, ils ont shooté dans une vieille, dans une ancienne base militaire, puis vraiment là. Fait que c'est un peu un genre de western. T'sais, un genre de film de Clint Eastwood, lui, ses influences, c'était beaucoup aussi Yojimbo de Kurosawa. T'sais, c'est ce genre de film-là. Puis là, il y a The Freshman. Puis d'ailleurs, le personnage il s'appelle The Freshman, t'sais, qui arrive dans l'université. Puis là, il se fait voler son vélo. Puis il y a un gros cartel de vélos volés. Puis là, lui, il s'allie avec des gens t'sais, un peu underground, puis un peu des racailles pour essayer de démonter les genres de deux fraternités qui se challengent. Puis le cartel de vélos. Mais c'est ça, c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que quand le jury a annoncé le gagnant, ils ont même utilisé le Mad Max Fury Road fauché, mais plein de bonnes idées. Fait que ouais, c'est un film de Midnight Movie, là, un genre de film de genre que tu vois en salle, puis tu sais que le monde il crie, c'est sur le film. Il y a vraiment un gros Midnight Movie assumé qui a gagné et le prix du public. Faut dire que bon, quand t'es 25 de ton équipe dans la salle, ça nuit pas, mais ça, c'est good for them. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, mais le prix du jury, le grand prix, finalement, Rocksteady Row. Moi, je t'avoue que c'est pas complètement ma tasse de thé. Je trouve que le film est... Tu sais, il y a beaucoup de scènes d'action. C'est très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec très peu. Moi, c'est juste que, tu sais, j'embarquais pas toujours dans les jokes. Il y a quand même des bons moments. Là. À un moment donné, il y a comme des personnages féminins qui débarquent, tu sais. Puis là, c'est comme, à un moment donné, ils leur demandent, par exemple, « Mais vous étiez où tout ce temps-là? » Puis là, les filles font juste dire, « Ben, on était en classe. » Parce que, tu sais, tout le long du film, c'est genre en tout cas, c'est une espèce de grosse extravaganza de volage de vélo dans une université, mais tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a d'enseignants puis tout ça. Fait que tu sais, il y a des one-liners vraiment satisfaisants à droite à gauche, mais tu sais, écoute, regarde, moi c'est peut-être un peu moins ma tasse de thé, mais je suis vraiment en mode good for them, ils ont fait un esti de film avec les moyens du bord, avec une énergie, puis ça paraissait, là, il était une espèce de gang de malades mentales au festival, tout en gang. Fait que Rocksteady Row, le grand prix fiction qui a gagné. Super rapidement, mon gros coup de cœur du festival, c'est un film qui s'appelle My Name is Maisha. Le réalisateur s'appelle Gus Krieger. Et l'actrice principale, Rachel Walker, elle, en fait, le projet, OK, c'est quoi? C'est tiré d'une pièce de théâtre qui est un peu un genre de open mic. Il y a un gars qui fait du beatbox, puis elle qui rappe par-dessus. Fait que c'est comme... C'est un film tiré d'une pièce... où il relate l'assassinat d'une jeune femme dans la fin des années 90 qui a été tuée par un policier blanc, finalement. Mais là, c'est que ça fait très bon Black Lives Matter et tout. Oui, 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 c'est super important, tout ça. Puis même, je vois sur le IMDb que le film est inscrit comme un drama, mais je pense que c'est super réducteur. En fait, c'est un musical hip-hop hyper expérimental. Puis comme c'est basé sur la pièce de théâtre, ils sont tellement tête, les deux acteurs, là, le gars qui fait le beatbox puis l'actrice principale, que genre, c'est comme la séquence d'ouverture de Baby Driver, mais genre tout le long du film. Là. Oh, je te jure, les transitions dans ce film-là, là, tous les mouvements de corps, tu cotes, genre, c'est, tout est tellement, tellement, tellement tête, là. Puis, dans un sens, on parle de la mort de quelqu'un, mais on célèbre sa vie, tu sais. Puis, je pense que c'est tellement une approche géniale puis rafraîchissante. Tu sais, c'est un film où, bon, le personnage s'est fait tirer 12 balles de fusil, tu sais. Elle s'est fait assassiner en se faisant tirer quand même 12 gunshots, là. C'est vraiment trash. Puis le film, donc, c'est comme si on est dans un genre de jeu de mémoire, vraiment une genre d'abysse de souvenirs. Puis là, à chaque fois qu'elle se fait tirer une balle, là, t'as le rapport du coroner qui se mélange après ça avec des souvenirs. Puis là, c'est full expérimental, beaucoup tourné en studio avec des jeux de lumière vraiment audacieux. Puis avec, c'est ça, comme je disais, du beatbox puis du rap un peu tout au travers, dans une espèce de chorégraphie globale d'une heure et demie. Pour vrai, là, ce film-là, c'est comme un bijou. Là. C'est vraiment... Donc, My Name is Maisha de Goose Krieger. Immense coup de cœur. C'est comme... Il faut que ce film-là soit acquis, puis sorte, puis soit sur les radars des gens. Ça a gagné le prix du public de la section Beyond. Beyond, c'est parce que Aslamdance, c'est une compagnie de premiers films, mais il y a comme quelques films qui sont des deuxièmes ou troisièmes films. Ce film-là était dans cette section-là, puis le seul prix qui est accessible, c'est un prix de public. Il l'a gagné, hautement mérité. My Name is Maisha, voyez ça.
Super. Puis, Pascal, avant que tu abordes un peu Sundance, moi, j'ai juste un petit, quelque chose que je veux dire. J'ai une annonce à faire qui va sûrement s'annoncer, vérifier. Mais 2018, c'est le grand retour de Nicolas Cage.
Oh oui.
Parce que là, notamment,
il
y a un film qui s'appelle Mandy. Qui est un des grands des films que, ben, en tout cas, moi, étant extérieur à Sundance, de ce que j'ai vu des échos sur Internet, sur Twitter notamment, des critiques que j'ai lis, gros buzz sur ce film-là, où apparemment, il y a Nicolas Cage qui se bat à coups de chainsaw, à coups de tronçonneuse. Donc, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Deux autres films que, sous lesquels je suis sous embargo, mais qui clairement méritent le coup d'œil une fois qu'ils sortiront, avec Nicolas Cage dans le rôle principal, soit Looking Glass, dans lequel il joue un propriétaire de motel. En fait, il rachète un vieux motel. Il découvre un secret terrible de ce motel. Mm-hmm. Et un film qui s'appelle également Mom and Dad, qui avait joué dans la section Midnight du dernier TIFF, qui est un espèce de film de zombies. Une excellente idée, en fait. Je sais pas pourquoi ça avait jamais été fait.
C'est vraiment des zombies.
Ben, c'est pas tout à fait des zombies, là, mais c'est comme un peu le style du film de zombies, où soudainement, tous les parents de la planète veulent assassiner leurs enfants.
Ouais, c'est ça.
Puis ça en fait un film tellement genre il y a une catharsis mondiale là, comme c'est incroyable, c'est comme tout le monde je pense a déjà eu un peu cette idée là sans la prononcer là.
Ouais.
Donc ces deux films là vont également sortir en 2018. J'ai également vu qu'il y avait un film de Nicolas Cage qui sort en avril en trois formats, soit un format cinéma en salle de manière régulière, en salle sur une espèce de nouveau système trois écrans, j'ai pas trop compris, là, c'est pas trop discuté dans l'article de Variety que j'ai lu, et également en réalité virtuelle. Donc ce serait comme un des premiers longs métrages en réalité virtuelle de ce film-là. J'ai plus le nom en tête, là, malheureusement. Il y a ça. En plus de ça, il y avait, tu sais, un film de Paul Schrader qui a été complètement botché par les producteurs Doug Eat Doug, il y a une couple d'années. Puis Schrader avait comme vraiment s'était dissocié du projet, avait dit c'est pas mon film, il a été vraiment fâché, il y avait des poursuites judiciaires. Et là, il a fait un remontage de ce film-là, mais un remontage super expérimental, du style que il était dans la salle de rush, il a regardé les rushs, puis il filmait l'écran avec son iPhone, puis ils ont fait des filtres, puis des effets, puis il a refait un tout nouveau truc, si bien qu'il a donné un nouveau titre à ce film-là.
Ouais, je me souviens, ouais.
Pour pouvoir, comme, légalement le sortir, c'est ça, il a donné comme un nouveau titre, puis il dit « c'est pas le même film, fait que, ce film-là m'appartient ». Fait que là, je viens juste de nommer comme quand même plusieurs projets de Nicolas Cage, puis il y en a au moins un qu'on sait qu'à Sundance, il y a eu beaucoup de buzz, puis Mom and Dad, au TIFF, il y a eu des très bonnes critiques aussi.
Ouais, Mandy, donc, les gens en parlaient beaucoup. Ouais.
Fait que
il est toujours en renaissance, Nicolas Cage. C'est ça qui est fou là. C'est il fait tellement de films, tellement de marde au travers de ça, mais il y a tout le temps un bon film par-ci par-là qui pop, puisque c'est comme He's not dead, là. Il est juste... Il est...
Ben moi, j'ai lu un article aussi peu élogieux sur lui, dans le sens que apparemment, il sait absolument pas comment gérer son argent, puis il a perdu une fortune monstre, puis c'est pour ça qu'il...
Ouais, ben c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Ouais. Il y a eu des problèmes de gambling, puis il s'est acheté genre une île déserte, puis genre des shit de même, là.
Il s'est fait aussi construire...
Il a dépensé de l'argent.
Il s'est fait construire une tombe dans une pyramide, puis il y a des gens, des femmes qui mettent des dons déjà pour...
Ouais, ça, c'est... J'ai entendu un podcast avec les réalisateurs Trevor Lynn, ben justement, c'est celui qui a fait... Mom and Dad, lui qui avait fait Crank, puis ils ont fait entre autres Ghost Rider 2.
Mm-hmm. Oh, ouais.
Puis pendant qu'ils tournaient Ghost Rider 2, ils en fait comptent toutes les anecdotes de Nick Cage sur le podcast, puis c'est malade. Puis il y a une nuit où Nick Cage a dit viens avec moi, ils partent en auto, puis ils arrivent dans un cimetière, puis ils montent une pyramide géante, puis il est comme ça, c'est ma tombe pour quand je vais mourir.
Oh ouais, hein.
Donc, donc bref.
Il dit, Nick Cage à l'écran, c'est pas mal ça dans la vie. Là. Il est genre insane de même. Là. Ouais.
Mais il y a certains acteurs comme ça, tu sens qu'il y a un moment où il y a une note qui est sautée complètement, tu sais, je veux dire, tu sais, juste, ben, tu sais, Shia le bouffe, il y a 10 ans, on s'entend, ouais, là, ouais. C'est pas la même chose que sa phase récente. Même Joaquin Phoenix, hein, je veux dire, lui, c'est Gladiator, puis d'autres films, là, de cette... Puis, tu sais, maintenant, Joaquin Phoenix, il est vraiment casté. C'est comme si certaines de ces icônes-là qui deviennent des acteurs comme... de catégorie A, tu sais, de films de studio, finissent par être un peu... Ça fait un cercle, puis ils se sont comme réappropriés par des cinéastes qui ont envie de subvertir leur image. Ouais. Puis tu sais, Nicolas Cage, je veux dire, clairement... Hey, j'ai vu juste une photo de lui à Sundance. Il est accoutré, là, comme la chienne à genre, ça n'a pas de bon sens.
Ben oui!
Non, mais genre, il s'en calisse, là. Il a l'air d'un cowboy, là, avec genre un gros coat dégueulasse. Puis t'es comme, évidemment, là...
Oui, il y a une photo, il y a un gros chapeau, puis dans ses mains, il y a un autre chapeau. Genre, il y a comme un chapeau en stand-by pour remplacer son chapeau.
C'est la folie, là. C'est la folie, Nicolas Cage.
Voilà, rien à chier, là.
Hey, Nicolas Cage. Moi, j'ai croisé Darren Aronofsky deux fois.
Oh.
J'ai croisé Maggie Gyllenhaal aussi. Est-ce qu'on veut du potin de star? On peut avoir.
Moi je veux que tu comptes l'anecdote, Pascal.
Écoute, Amy, une productrice qui a loué la maison dans laquelle j'étais, c'est une productrice de Calgary, tout ça. Bon, puis elle a tout le temps accès, elle va à Sundance pour faire des parties puis des cocktails, puis c'est bien parfait, puis pour son réseau de contacts. Puis maintenant on était dans un party, puis donc c'est pas moi qui l'ai entendu, mais c'est quand même un quelqu'un directement, là, t'sais, premier niveau de racontage d'histoire. Fait que t'sais, c'est quand même bon, très près. Darren Aronofsky, on le connaît un peu quand même. On connaît un peu sa réputation, peut-être. On sait qu'il n'est plus avec Jennifer Lawrence. Ça a fait parler les magazines à potins. Et donc là, il est là, il croise une jolie demoiselle dans un party bien tard à Sundance. Et un réalisateur va voir Darren Aronofsky, dit « Monsieur Aronofsky, désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous dire que votre cinéma a vraiment changé, ben, dans un sens, ma vie, la façon comment je fais des films. Je voulais juste vous dire ça. Vous êtes une grande, grande, grande inspiration, tout ça, blabla. » Darren Aronofsky, il l'arrête, il dit genre, « Don't you see I'm talking to a lady? » Le gars, il est comme, « OK, tu sais, désolé. » Puis là, il demande comme, « T'as-tu un film à Sundance, toi? » Puis là, il fait, « Ben, non, mais j'en avais un il y a 2 ans. » Puis là, il dit, « Ben, OK, mais tu sais... pour qui tu prends pour venir me parler, genre, tu viendras me parler quand tu auras un film à Sundance, quelque chose comme ça. » Puis là, il était juste vraiment, vraiment, vraiment prick, là. Mm. Fait que, Darren, on t'aime, Darren, on aime tes films, Darren, mais faut respirer par le nez, Darren.
Mais là, outre ces petits patinages, toi, t'as vu quelques films, c'est ça, à Sundance également?
Oui, j'ai vu.
Il y en avait-tu un ou deux que tu voulais souligner?
Ben, j'en ai vu deux, fait que déjà, je vais les souligner très, très rapidement. En fait, hey, OK, où va le monde? Tu sais, moi, là, qu'il y a un an, tu me dirais, t'écoutes de la télé, ben, tabarnak, je suis allé à Sundance pour voir 2 épisodes d'une série télé à venir, t'imagines? C'était la nouvelle série, la série s'appelle The Trade. C'est une série télé de Showtime, qui va sortir, j'imagine, dans le courant de 2018, de 5 épisodes, et au festival, en fait, ils présentaient les 2 premiers épisodes. Mais, en fait, c'est une série documentaire de Matthew Heineman. Vous savez, c'est qui, Matthew Heineman? Mmh. C'est lui qui a fait Cartel Land et City of Ghosts, notamment.
Mmh.
Cartel Land, moi, j'adore. Je veux dire, c'est vraiment... c'est absolument saisissant. Et The Trade, c'est quoi? C'est donc une série en 5 épisodes d'1 heure où on suit en parallèle 3 facettes de la guerre contre la drogue aux États-Unis. Donc, d'un côté, t'as les narcotrafiquants. Ça, c'est insane, là. T'as comme, genre, l'équipe documentaire qui suit, tu sais, des barons de la drogue, puis qui les... t'sais, sans masque, il leur dit des choses sans filtre. C'est complètement hallucinant. L'accès qu'il réussit à avoir là, avec son équipe, ce réalisateur-là, c'est à tomber en bas de sa chaise. Là. Puis Cartel Land, c'est vraiment ça. Et même dans Cartel Land, il se retrouve en plein milieu d'un shootout entre des trafiquants puis la police. Là. C'est complètement hallucinant. Donc, d'un côté, justement, tu as une équipe au Mexique qui suit des narcotrafiquants. D'un côté, tu as une équipe qui suit des toxicomanes et leur famille. Ça aussi, avec un accès là, complètement... ça fait aucun... Il y a des images, là, tu te dis, mais comment tu peux avoir une équipe de cinéma qui a gagné la confiance de ces toxicomanes-là pour filmer ça? Là, c'est les images qu'ils ont réussi à capter, c'est plus que du cinéma. Là. C'est vraiment du travail... c'est du journalisme de guerre ou je sais pas quoi, là, c'est complètement insane. Et d'un autre côté, donc la troisième en parallèle, c'est vraiment l'initiative policière. Et donc c'est ça, tu navigues un peu entre les trois. Chaque épisode semble avoir aussi une genre de petite histoire qui essaie de boucler à même l'épisode d'une heure. C'est comme par exemple, ah, il y a eu telle fille est morte d'une overdose, puis là, pendant cet épisode-là, la trame narrative, c'est un peu genre, on essaie de remonter à la source pour trouver comme c'était qui le fournisseur de cette espèce de batch d'héroïne-là qui était comme vraiment mortel et tout ça. Bon, ça, c'est un des exemples. Là. L'épisode 2, c'était un peu ça, la trame. Puis chaque épisode semble, en tout cas, avoir sa trame. Puis en même temps, pendant qu'il tournait ça, c'est à l'arrivée de l'épidémie de fentanyl, c'est la nouvelle drogue qui fait un ravage aux États-Unis. Là. Il y a plein de gens qui meurent d'overdose de fentanyl depuis quelques années. C'est ça. C'est vraiment superbe au niveau des images qu'ils ont. Par contre, ça s'effondre complètement au montage. Je trouve qu'il y a un manque de... Mais ça s'appelle The Trade. Vous allez le voir. Je pense que ça a définitivement énormément de valeur. Les images qu'ils captent, c'est hallucinant, je me répète, mais c'est ça. Mais il y a quelque chose... On dirait qu'on voit pas la patte de cinéaste. On dirait qu'on humanise vraiment pas. C'est comme si t'as trop d'images puis tout à coup, tout ce que tu fais, c'est de juste aller toujours dans le gros dramatique puis dans le gros tape à l'œil. Okay. Puis aussi avec de la musique de films d'action vraiment standard. C'est comme si ça a l'air de la fiction puis ça en fait son charme puis sa force. Un peu, encore une fois, comme Cartel Land ou ces films-là. Mais je trouve que c'est vraiment... Il y a un manque de nuance et un manque de goût au niveau du regard. C'est comme si j'ai l'impression qu'on la sent, l'espèce de surproduction un petit peu de télé. Puis c'est comme si, OK, on a, je sais pas moi, 5 heures de matériel à combler. Puis on a des images absolument hallucinantes. Mais il y a comme peut-être pas la réflexion humaine derrière tout ça. Puis on est strictement dans du gros puis dans du sensationnalisme. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage au final pour ça. Mais quand même, ça vaut quand même définitivement la peine. The Trade de Matthew Hyndman. Et l'autre film que j'ai vu, c'était vraiment nul à chier. Ça s'appelle The Catcher Was a Spy de Ben Lewin. Un film avec un beau cast là, très vedette, là, avec Paul Rudd, entre autres, Mark Strong, Sienna Miller, Guy Pearce, Paul Giamatti, Jeff Daniels, Tom Wilkinson. Tu sais, gros film, un genre de film d'espionnage révisionniste de l'histoire, un peu comme un de Deuxième Guerre mondiale, The Imitation Game ou, tu sais, récemment Bridge of Spies. Donc, on suit l'histoire de Mo Berg. Lui, c'est un homme qui était... C'était un ancien joueur de baseball professionnel qui, très, très, très secret dans sa vie, il y a aussi même une petite tangente sur l'homosexualité refoulée, tout ça. Bon, ça se découvre dans le film. Et il s'en vient qu'à être un espion qui a comme mission d'assassiner le physicien allemand Werner Heisenberg, qui était un peu... C'est comme un peu la course entre, tu sais, les Allemands et Einstein du côté des États-Unis et Heisenberg du côté de l'Allemagne pour créer la bombe, la fameuse bombe. Puis là, justement, Mo Berg, un ex-joueur de baseball professionnel juif, est mandaté pour aller assassiner Heisenberg. L'histoire est très intéressante. Même, j'oserais même carrément dire que le scénario est bon. Mais pour moi, là, c'est un testament de médiocrité, de mise en scène, de direction d'acteur et de direction photo. C'est rare, en fait, que la direction photo m'agace autant. Ils ont des sets puis des costumes absolument géniaux. Puis, genre, c'est shooté à, je sais pas, tout est à f1.4, avec des flous pas possibles, des scènes de conversation avec des caméras qui tournent autour des gens, des espèces de musique de tension. C'est Howard Shore qui a fait de la musique pourtant, mais des espèces de musique de tension qui sert vraiment à rien, à des moments vraiment artificiels. C'était vraiment un esti partie de films médiocres qui essayent d'être un film à Oscar, mais qui se pètent la gueule. Donc, The Catcher Was a Spy de Ben Lewin, évitez-le. Voilà, c'était Sundance en deux projets.
Cool, super. Et bon, alors, ça fait le tour pour Sundance, ça fait quand même une demi-heure qu'on en parle.
Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça.
moi, j'avais quelque chose que je voulais souligner du côté de Rémi Fréchette. Parce que c'est d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment très sensible, puis que c'est un sujet que j'aborde souvent. Mais là, tu as sorti l'affiche donc, de Montréal Dead End, réalisée par Pierre-Luc Boucher.
Ah oui, oui, oui.
Puis c'est tellement une belle affiche. Puis tu sais, c'est tellement rare qu'on ait des belles affiches en cinéma québécois. Bon, une affiche qui fait très années 80. On comprend les références. T'sais, ça fait un peu penser à la petite maison Arrow Video là, qui sort des Blu-ray. Là, puis qu'ils, à chaque fois, ils vont faire une commission Pierre-Luc, à un nouvel artiste. Là, puis...
C'est hallucinant ce qu'il fait. Puis ouais, j'avais envoyé les références. Moi, je voulais Fright Night.
Ouais,
puis,
j'avais
envoyé aussi Return of the Living Dead 2, où c'est comme un cimetière avec une espèce de fumée maléfique au-dessus. Ouais, ouais. J'ai envoyé ces références-là. Puis je voulais de quoi dans cette veine-là. Mais c'est que Pierre-Luc, c'est un trésor caché là, pour l'instant. Là, puis je suis tellement content qu'il participe à ces projets-là parce que c'est... En plus, je fais des films très popcorn, là, des films très tape à l'œil, puis je suis content parce que ça fit beaucoup avec l'esthétique de ses affiches, là, même s'il est capable de faire des trucs plus en douceur. Là. Mais tu sais, à date, chaque collaboration, il fait des trucs hallucinants avec rien. Il nous a fait des affiches pour des pitchs. On avait pitché un projet qui s'appelait Kill Mall, puis c'était un projet où on n'avait aucun visuel, tu sais, rien de tourné, c'est juste un scénario. Puis il est allé chercher du stock image, puis il a posté sur mon site web, là, Caméra Chaos, s'il y en a qui sont curieux. Puis c'est juste du stock image qu'il a pris, puis il m'a fait un poster genre qui a pas de bon sens. Puis même chose l'année dernière à Fantasia, il y avait la présentation de Carmina, qui était la version comme Redux, là, c'était un hommage à Carmina qui avait été faite. Puis il avait commandé, Fantasia avait demandé un poster original pour l'événement, puis c'est Pierre-Luc qui l'a fait, puis le poster original est comme 40 000 fois meilleur que le vrai poster. Le poster de Carmina est épouvantable, là. C'est vraiment dégueulasse, puis lui il a fait un espèce de poster à la Nosferatu en utilisant des... il y avait même pas un film en bonne qualité, il y avait genre je pense qu'il est allé sur YouTube prendre des screenshots du film, puis il a retraité les images, il a comme... Je sais pas trop ce qu'il a fait, là, mais il a traité les images pour que les images soient super clean, puis qu'il a l'air dessiné, puis il a fait un poster de Nosferatu, mais avec Carmina. Fait que, bref, là, encore une fois, là, on a parlé de Montréal Dead End, j'ai envoyé des bouts de scénario, j'ai envoyé le film, en fait, le premier cut que j'ai du film, fait qu'il a pu voir les segments. Puis, j'étais comme go crazy, là, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire, puis il me sort ça, c'est comme...
Rappelle-moi son nom, excuse-moi.
Pierre-Luc Boucher.
OK.
Pierre-Luc aussi, c'est quoi? C'est l'année dernière, il a fait un poster, un fan art là, pour le nouveau Avengers, puis tu sais, ça a été devenu viral, puis même Robert Downey Jr. qui l'a partagé sur son Facebook, là, tu sais, fait que...
Ouais, c'est ça.
C'est quand même vraiment cool, puis...
Ben, en fait, c'est qu'il trouvait qu'il manquait des personnages sur l'affiche. Lui, voulait l'affiche avec tous les personnages du prochain, là, de Infinity War. Fait qu'il a pris l'affiche qu'il avait faite, puis il l'a tout rechangé en rajoutant des bonhommes, puis... Puis c'est comme ça, c'est la version définitive du poster. Puis le monde s'en virait fou. Puis, tu sais, le poster était comme rippé sur des sites aussi. Tu sais, des sites où ils font genre, des fois, t'as des pubs sur Facebook. Puis c'est comme acheter ce print-là du poster. Puis tout. Ils ont effacé le nom de Pierre-Luc. Puis c'est genre une entreprise de marde, là, qui ils font juste piquer des fan posters online. Puis ils revendent à 50$, là.
Non, c'est vraiment cool.
Fait que, mais tu sais, c'est fait piquer son or pour tes sites de même. C'est vraiment fucké, là.
C'est vraiment dommage, je trouve. C'est tellement, je trouve, un or qui s'est perdu, là, parce qu'évidemment. Je sais pas pourquoi exactement, faudrait faire des recherches là-dessus, mais tu sais, comme, c'est pas nécessairement qu'au Québec on n'a pas de goût, là. Tu sais, tu regardes des anciennes affiches de films, là. Il y avait eu une exposition il y a pas longtemps à Cinémathèque, une couple d'années. Puis tu sais, il y avait des belles affiches, tu sais, dans le temps des années 50, 60, 70. Puis d'ailleurs, tu sais, avec le projet Elephant, là, ils font la restauration de plein de ces films-là. Puis ça show up sur iTunes ou sur Illico. Puis tu sais, tu vois les affiches, c'est comme, waouh, tu sais, on a vraiment comme des belles affiches de films, inventives, créatives. Puis évidemment, tu sais, je veux dire, faut pas juger un livre par sa couverture, mais. Là encore, aujourd'hui, un film que j'attends beaucoup, que j'ai très hâte de voir, en fait, Chien de garde de Sophie Dupuis. Mais tu sais, l'affiche officielle, c'est carrément un Stills avec genre le titre en impact rouge dessus.
Ouais, mais c'est tout le temps ça.
Ouais.
Pourquoi ils payent pas genre un bon graphiste, un illustrateur, quelqu'un juste pour faire une belle affiche? Pour vrai, ça coûterait pas tant plus cher, puis le branding du film serait fait, là. Faites quelque chose de... Je sais pas, je trouve ça bien décevant que... qu'il n'y a pas un peu plus de réflexion des fois qui sont mis sur les posters beaucoup au cinéma québécois en plus là.
Ouais, les Chris de Réal qui font eux-mêmes leurs posters là.
non mais toi tu vois, parce que genre toi t'es sensible à la question, je veux dire, tu m'en as même ouais. on s'en était parlé en privé puis tu sais c'était ouais. quelque chose qui était vraiment important pour toi ton affiche, puis ouais. tu le savais, tu sais, puis bon ensuite on parlera pas, t'sais, j'ai un peu mes réserves face à ton affiche, mais elle est quand même meilleure que la très grande majorité des affiches de films québécois là.
Oh ouais, non c'est ça, puis mais nous c'était vraiment comme un choix carrément lié à l'argent, mais c'est pour ça que je le sais que c'était un peu mon last call aussi, tu sais, je suis très content, je trouve que la photographie ça donne bien le pouls du film, au moins parce qu'il y a aussi ça, tu sais, une affiche ça reste quand même un outil promotionnel, on veut quand même que ce soit extrêmement où l'objet graphique est excessivement important, mais il y a aussi tout le côté est-ce que ça vend l'énergie que le film a puis que tu as envie de donner.
Ouais.
Il y a quand même une réflexion, c'est pas juste à propos de l'objet graphique, mais moi c'est ça, c'est un peu mon last call, c'est pour ça que je suis particulièrement intéressé dans la conversation, parce que c'est pour le futur proche et moins proche, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler avec des gens, tu sais, des gens que c'est leur métier, mm-hmm. puis des gens évidemment meilleurs que
Boucher.
Moi aussi.
Appelle Pierre-Luc Boucher tout de suite.
Ben, très cool. Non, mais c'est pour ça.
Ma seule crainte avec Montréal d'Éden, c'est que pour vrai, tu sais, c'est un film pas de budget, que tout le monde a fait pas de cash. Fait que ça reste un indie, là, tu sais, mode kino, là. Ouais. Mais l'affiche, on dirait que c'est un gros film, genre, full cash, full financé, là.
Ah, mais ça, c'est comme à l'époque quand tu te promenais dans l'allée des films d'horreur, puis là, tu sais, ou des films un peu softcore, genre un peu weird, là. Puis là, tu vois une belle affiche avec genre des vampires, puis un chevalier, puis des trucs. Tu prends ça, puis finalement, le film est tellement cheap. C'est genre une coproduction, ouais, genre Italo, je sais pas quoi.
Je m'attends à voir comme. Une fois qu'ils s'attendent genre à voir un genre de gros film, c'est ça, gros budget avec des gros noms de réal, puis ils sont comme ah oh, ok, ben c'est juste ça, c'est... l'affiche est tellement belle, ça fait pas de sens. C'est le rapport, ouais. Tu checkes ça dans un programme de festival, t'es comme aïe aïe, ça va être insane, puis tu sais le film il est vraiment bon là, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait, mais tu sais il reste que c'est un film indie d'horreur là où on a fait avec les moyens du bord là, c'est un film duct tape là, tu sais, c'est comme faut juste que ça soit on par avec ça là.
Oh, oui, mais tu sais, hey, ça me fait toujours penser à la quote dans Ed Wood, dit genre « Do you have a script? Fuck no, but we have a poster. »
autre chose que je voulais souligner, en fait, c'est toi Rémi qui m'en a fait part. Il y a notre ami Hugo Mérand qui fait de la musique et qui fait des soirées live. En fait, il accompagne des films avec de la musique dans des salles. Et toi, t'as cité notamment à la projection du Miroir de Tarkovsky,
yeah. Ouais. Le band s'appelle Papa Cézanne et ses amis. Fait que c'est eux qui font la musique des films. Il y a un guitariste, une drummeuse, il y a un gars qui fait les vents, tous les instruments à vent, il y en a comme trois on stand-by. Il y a un bassiste, puis il y a Hugo qui fait du keyboard. Hugo qui d'habitude fait de la guit, mais là il manque un keyboardiste en fait dans leur band. Donc c'est Hugo qui a pris cette place-là. Puis c'est ça, puis il essaie de sélectionner des films qui a pas trop de dialogue là, des films qui sont parce que c'est pas des films muets là, tu sais, c'est pas genre de l'accompagnement sur film muet, c'est vraiment des films, mais le trip c'est de l'impro musical, tu sais, m'a montré ces partitions entre guillemets que c'est juste des notes mettons à tant de temps dans le film un gars tombe en bas des marches, à tant de temps dans le film il y a une grange qui brûle, tu sais, fait qu'ils ont comme des cues sur le déroulement du film. Mais ils n'ont pas de partition comme telle. T'sais, ils jamment sur le film. Puis c'est ça, ils coupent le son du film puis ils mettent des sous-titres. Puis c'est ça, ils avaient fait Evil Dead 2 à l'Halloween.
Nice.
Ils ont fait La Marche dans l'Empereur dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Puis là, ben, là, c'était Le Miroir de Tarkovsky. Puis c'était vraiment intéressant parce que moi, je l'ai vu à Concordia, ce film-là. Puis honnêtement, là, c'est celui de Tarkovsky que je me souvenais fuck all. Là. Je sais pas si... Je me souvenais plus si je l'avais, tu sais, dormi ce film-là ou si ça m'est juste passé. Comme...
Ben, c'est ça, t'étais pas très attentif pendant tes cours, c'est ça que t'es dormi.
Mais non, j'étais là, j'étais full là, mais comme le miroir, puis là, je le revoyais, puis j'étais comme ah, ok, c'est pour ça que je m'en souviens pas. C'est vraiment. Il y a pas de fil narratif dans le film, là, c'est vraiment complètement décousu, puis c'est voulu
comme
ça. C'est
un gros
ça.
Rêve, c'est ça, sur différentes temporalités, et ouais.
Puis là, ils ont fait une entraque au milieu du film, tu sais, c'est quand même un film de 1h45 avec de la musique non-stop, là. Eux, ils font de la musique sans arrêt. Puis à la mi-temps, puis là, moi, en plus, parce que là où je suis assis, il y a un des musiciens qui était en direct en face des sous-titres, fait que je pouvais même pas lire les sous-titres. Fait que là, je checkais ça, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là déjà? Je l'ai déjà vu, mais j'ai plus aucun souvenir. Mm. Puis là, à la mi-temps, j'ouvre Wikipédia, puis là, je me dis, je vais checker juste le synopsis du film. Puis c'est comme, le film est basé sur un principe non linéaire qui switch entre la réalité, les souvenirs,
la poésie de son père. C'est des poèmes de.
Basé sur les poèmes de son père, une comédienne joue deux rôles, puis. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, ok, c'est pour ça que je comprends fuck all ce qui se passe à l'écran, là. Mais tu sais, mais c'était parfait, par exemple, pour cette expérience-là, parce que la musique expérimentale dessus, là, ils sont vraiment allés full on expérimental, musique contemporaine. Il y a un bout, toutes les. Ils ont déposé leurs instruments, ils ont pris des micros, puis se sont mis à faire des chœurs à la Ligeti, là, genre la messe de Ligeti, là, le Requiem de Ligeti, où c'est juste des voix dissonantes, là. Il y a comme un bout, il y a des archives de la guerre, là. Puis se sont mis à faire juste des « dans les micros, là. C'était vraiment hot, là. Tu sais, c'était vraiment une belle expérience. Puis
tu nous le vends ça tellement se passe à... bien.
Mais pour vrai, je pas l'air de...
Non, c'est drôle. Moi, j'aime vraiment drôle ça, parce qu'on tombe quasiment dans la caricature de genre un projet expérimental, là, tu sais.
Ben, c'était expérimental, mais tu sais, ça switch avec le film, là. Tu sais, Hugo m'a dit que leur meilleur shot, c'était La Marche de l'Empereur, où là, ils pouvaient faire continuer vraiment des tunes, vu que c'est un documentaire, il y avait le temps, il y avait de la place de mettre des longues tunes. Le miroir, c'est tellement déconstruit qu'il n'y avait comme pas le choix de suivre cette vibe-là, tu sais. Evil Dead, I guess que j'étais pas là pour Evil Dead, mais sûrement qu'ils étaient un petit peu plus funky dessus, ils sont allés un peu plus accessibles. Ouais. Mais The Mirror, ben tu sais, ils ont suivi la vibe, puis c'était excellent, là, puis c'était vraiment, vraiment bien fait. Ça permet de redécouvrir le film d'une autre façon.
Ouais, non, mais c'est drôle que tu parles de Tarkovsky en plus, parce que moi, j'ai revisité récemment des films de Tarkovsky. Tu sais, en fin d'année, on est un peu dans des marathons de films de l'année. Pis,
ouais, ouais.
Tu sais, c'est bien cool, mais à un moment donné, on dirait que j'étais comme... Là, j'étais sur Mubi, puis là, j'ai vu Le Sacrifice, parce qu'il y a eu une nouvelle restauration 4K récemment ouais, du Sacrifice de Tarkovsky.
Qui est toujours à l'affiche au parc. Ben, il est toujours à l'affiche, c'est la quatrième semaine.
Là. Ouais, c'est ça. Puis, mais en tout cas, moi, je l'ai comme, on s'est mis, tu sais, puis tu sais que c'est un film de 2h30, que c'est du grand cinéma, c'est Tarkovsky, tout ça. Puis ça m'a tellement fait du bien, là, j'étais comme, oh mon Dieu, voir un chef-d'œuvre, tu sais, après avoir vu, tu sais, après overdoser à tous les films un peu, tu sais, contemporains. Il y en a des très, très bons, évidemment, mais tu sais, c'est pas tout qui est de cette trempe-là, on s'entend. Là.
Ouais, puis des fois, t'as juste le goût, en fait, de replonger dans tes films préférés. C'est normal aussi, c'est le côté, genre, de la redécouverte, puis de. Des films que tu connais bien, donc t'as pas nécessairement le même type d'écoute. T'es pas là pour comme te faire raconter une histoire, t'es là pour revivre le film, puis là, vraiment le prendre d'une autre façon.
Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment drôle. On a même fait un genre de marathon. Fait qu'on a revisité L'Enfance d'Ivan, Solaris, puis Le Miroir, justement. Fait que c'est vraiment drôle que tu parles du miroir, parce que dans le dernier mois, en fait, je me le suis reclaqué. Roublev, c'est probablement mon préféré de tous, mais... Paradoxalement, c'est le plus difficile à digérer dans un sens. Donc, on dirait que celui-là, on se le garde pour une soirée très, tu sais. Mais.
Le miroir, c'est quand même hardcore, là, pour vrai. Là. C'est,
j'avoue.
Zéro accessible, là,
j'avoue, j'avoue.
C'est comme ce contexte-là, il était le fun pour ça parce qu'il y avait la musique qui rajoutait quelque chose d'autre. Mais fuck, ce film-là, c'est. Ouais, tu montres pas ça à n'importe qui, là.
Ouais, faut
que tu sois prêt à gober ça, puis. Ouais.
Non, mais puis sa filmographie se répond super bien. Hein. Tu sais, le dernier plan du Sacrifice, donc de son dernier film, fait un écho au premier plan de L'Enfance d'Ivan aussi. Puis j'avais jamais remarqué ça, mais genre, c'est pas un hasard. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont écrit là-dessus, mais là, c'était vraiment drôle d'écouter Le Sacrifice, puis le lendemain d'écouter L'Enfance d'Ivan, puis de faire oh my god, le dernier plan du dernier film, puis le premier plan de l'autre. C'est comme si, vraiment, là, il y a un cercle.
Le Sacrifice, c'est son dernier?
Le Sacrifice, c'est son dernier, ouais.
Ah, je pensais que c'était Stalker. Non, parce que c'est là qu'il a pogné des radiations, puis.
C'est
sur Stalker qu'il a développé son. Il a développé, genre, un cancer, je pense.
Ouais, c'est ça.
Mais il tournait dans une place où il y avait des radiations, puis l'équipe a tout pogné, genre, des maladies suite au tournage. Là.
Ouais. Mais c'est ça, mais Stalker, c'était quand même 7 ans avant. Non, il a eu le temps de faire Nostalgia et Le Sacrifice dans les années 80 après. Okay. Mais effectivement, peut-être que son cancer, ça a découlé de Stalker.
Ouais, mais j'avais entendu ça à quelque part.
Ouais. Mais bref, fait que, tu sais, c'est toujours un plaisir, puis je trouve que. Ils ont tellement un rapport au temps qui est différent, ces cinéastes-là, que on dirait que ça nous. reset le cerveau un petit peu. Il y a toujours, c'est toujours le fun de se claquer un Tarkovsky, tu sais, une fois de temps en temps. Surtout après avoir vu genre I, Tonya ou des films comme ça qui sont des films géniaux, mais tu sais, c'est des films hyper kinétiques, tu sais, c'est des films qui ont.
C'est une autre époque.
C'est vraiment une autre époque, tu sais. En tout cas, bref. Mais voilà.
Moi, j'y avais un.
Mais
oui, vas-y.
Tu peux juste closer, Paul, par exemple. C'est parce que j'ai pas donné l'info, là, mais c'est à la station Host, ça se situe de même. H-O.st. Station O-S-T. C'est sur Ontario, pas loin du métro Papineau. Puis c'est ça, c'est à tous les mois. Ils font ça le dernier jeudi de chaque mois. Le prochain film n'est pas encore annoncé, mais si vous regardez sur la station Host, la page Facebook, ou je pense que ça s'appelle Musique sur film, là, ou Projection Musique de film, vous allez le trouver là, sur Facebook, là, c'est assez facile à trouver.
Mm-hmm.
Donc voilà.
Super. Sinon, moi j'avais un petit témoignage à faire, en fait, puis je vais un peu virer dans presque le mélodrame, là. Mais hier, j'ai vraiment vécu en fait l'un des plus beaux moments de ma vie de spectateur et de programmateur.
Oh.
Parce que j'étais allé voir au cinéma Beaubien, les scènes fortuites de Guillaume Lambert, qui était précédé du court-métrage La pureté de l'enfance de Sviane grâce au projet Plein écran en salle.
Ouais.
Parce qu'au dernier podcast, c'était pas encore lancé, mais là, c'est déjà le deuxième film qu'on accompagne en salle. Puis honnêtement, j'ai tellement eu. C'est peut-être un peu narcissique ou peu importe, mais tu sais, c'est juste que j'ai tellement. Je trouvais ça tellement beau de voir tous les spectateurs dans la salle. C'était quand même une grosse salle. C'est le premier week-end de la sortie des scènes fortuites. Et de voir les gens rire comme ça et apprécier le court-métrage autant. Faut dire que c'est un beau petit bijou, là, La pureté de l'enfance de Sviane. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que d'ailleurs qu'il est rendu disponible sur la page YouTube de l'ONF. Là, et probablement aussi sur l'ONF.ca directement. Puis en tout cas, ça a été vraiment comme une espèce de petit velours. Puis tu sais, on dirait que ça a comme justifié tout le temps et les efforts qu'on met dans ce projet-là. Puis c'est tellement beau de voir ça comme un court-métrage qui joue avant un film. Là. Puis évidemment, on peut pas faire ça avec tous les films parce que les films qui sont longs, mais tu sais, le film de Guillaume Lambert dure 80 minutes, puis c'était comme la cible parfaite là, pour accoler un cours. Donc, ouais, j'étais très ému de ça. C'était vraiment le fun. Puis tu sais, c'est un autre type de satisfaction que, mettons, pendant le festival, justement. Là. On dirait que c'était plus... comment je dirais ça? C'était plus terre-à-terre, c'était plus réel, c'était plus concret, je sais pas.
Ben, t'as le contact avec le public que t'as pas avec ton festival, tu sais. Le fait d'avoir des films en ligne, t'as pas la réaction instantanée, tu sais, c'est des likes, puis mais d'avoir le public qui réagit, c'est une autre expérience.
Ben, c'est parce qu'aussi, j'ai l'impression que dans la folie du festival, je suis tout le temps tellement débordé, puis stressé, puis euphorique, qu'on dirait que je deviens au neutre, quasiment, là, je deviens comme un peu, genre, tu sais, je plane un peu là, sur cette énergie-là, tandis que là, c'est vraiment comme dans un contexte, j'étais pas en train de travailler, j'étais comme... Je suis allé voir un film, puis là, ben, ça a donné qu'il y avait le court-métrage avant, puis on dirait que c'était vraiment un très beau moment. Fait que bon, j'étais bien content. Ceci dit, les scènes fortuites, je trouve que c'est un premier film très brouillon, puis j'aurais aimé l'aimer plus que ça. Mais le film, c'est vraiment un projet Frankenstein que Guillaume Lambert a fait sur plusieurs années, puis ça paraît. Puis le côté méta de genre... J'ai fait un film à propos de moi qui essaie de faire un film, puis qui est prêt à faire le film, puis dans le film, il y a plein de personnages qui me demandent pourquoi je fais ce film-là. C'est vraiment lourd, je trouve. Puis c'est vraiment le genre de truc qu'on a tout fait au cégep, là. Puis faire un scénario sur des gars autour d'une table qui essaient d'écrire un scénario, tu sais.
Ah, j'ai fait une trilogie au secondaire là-dessus.
Ben, c'est ça.
C'est vrai, en plus.
Mais,
c'était deux gars qui brainstormaient pour le film qu'ils allaient faire.
Ben, c'est ça. Puis le problème, c'est que, bon, Guillaume Lambert brille au niveau peut-être de l'écriture des dialogues, certaines scènes. Et lui-même, tu sais, c'est un bon comédien. Puis à la limite, en fait, les meilleurs moments du film, c'est pratiquement quand il n'y a pas vraiment de scénario puis de dialogue, c'est juste lui qui fait une mimique ou une moue, une grimace, il est quand même très bon là-dessus, mais c'est ça manquait de cinéma un peu, t'sais, il vient de la série web puis de la télé, puis ça paraît qu'il y a eu la difficulté à mener à bien son projet, puis t'sais, t'as l'impression qu'il l'a sorti pour pouvoir le mettre derrière lui, là, puis pouvoir dire, bon, ça c'est fait, là, je peux vraiment me plancher sur un nouveau projet, là. Puis même, c'est ça, dans le film, il y a un peu cette discussion-là avec des distributeurs et des producteurs québécois, puis Ça devient vraiment redondant, là. Mais bon, écoutez, si vous êtes fan de Guillaume Lambert, si vous l'avez vu dans Like Moi, dans L'âge adulte, tout ça, vous pouvez aller le voir. Mais je trouve vraiment que c'est une très grosse déception. Mais ceci dit, on a vu aussi deux autres films un peu plus sur lesquels on est un peu plus positif, notamment I, Tonya de Craig Gillespie. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Aytonia, donc, qui est l'histoire vraie, en fait, de cette athlète américaine interprétée par Margot Robbie. C'est une espèce de biopic, donc non conventionnel, dans lequel il y a des appels aux spectateurs. Et dans c'est un peu l'effet Rashomon. Tous les personnages nous racontent un peu leur point de vue puis leur vision de ce qui s'est passé.
Ouais.
Parce que, bon, spoilers pour la vraie vie, mais il y a eu un incident durant une compétition et il y a une rivale, donc, ben c'est tout des patineuses artistiques. Donc, une rivale de Tony Harding qui s'est fait défoncer le genou, quelque chose comme ça, pendant... Et donc, le film tourne un peu autour de ça. Qu'est-ce qui a mené à cet événement-là?
Ouais.
Mais, et aussi, dans le fond, c'est un regard sur cette jeune Américaine du Sud qui a été élevée dans des conditions pas faciles, puis tu sais, qui met un peu le doigt sur une réalité que la plupart des athlètes qui ont du succès ont aussi beaucoup de support. En fait, ça nécessite tellement de support que c'est pratiquement impossible pour ceux qui viennent de milieux pauvres de vraiment comme performer à un tel niveau. Là. Mm-hmm. Donc là, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du film Aytonia? Est-ce que ça vous a séduit? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que c'est une réussite?
Ben déjà, Paul, toi, est-ce que tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu, ok. Bon. Moi, j'ai adoré, là. Je vais le dire straight up, là. Mais écoute, tu sais, on pourrait dire, ah, c'est très, très américain, bon, tout ça. Puis tu sais, utiliser ça d'une façon un peu péjorative. Mais tu sais, Elvis Graton, il l'a dit un jour, hein. Ils l'ont l'affaire, les Américains. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, tu sais, ça a une genre d'énergie qu'on a vu dans les dernières années avec d'autres films qui voués à du grand public, mais que je trouve qu'ils volent.
Ben, pas Wolf of Wall Street avant que je le voie, Pascal, puis j'ai vraiment senti ça aussi. Là.
Ben, Wolf of Wall Street, puis The Big Short aussi dans les dernières années.
Ouais, ouais, ouais.
Cette espèce d'énergie-là, mais où finalement, on fait un petit peu, pas l'apologie, mais on surfe sur... des situations extrêmement problématiques, tu sais, c'est des films qui sont quand même vulgaires, qui sont en anglais unapologetic, là, tu sais, sont vraiment juste comme ils défoncent la baraque un peu. Je t'avoue que moi, dans un contexte d'un biopic, j'ai trouvé ça étrangement, en fait, rafraîchissant. Je pense que l'histoire se prête à ça, parce que l'histoire, c'est carnavalesque, là, c'est comme un peu la ribambelle de personnages. Que tu te dis, voyons, ça peut pas être gros comme ça, ça peut pas, tu sais, je peux pas croire que ce qui m'est présenté est proche d'une certaine réalité. Tu sais, le film finit sur certaines images en plus où on voit certains personnages de la
vraie histoire. Ça me rappelait un peu des Astor Artists aussi qui ont dû justifier à la fin du film que c'est vraiment ça le film, tu sais.
Ils
ont montré des extraits documentaires à la fin pour faire les personnages sont vraiment aussi fucked up, là, tu sais.
Ouais.
Ils comparent les entrevues avec les vraies entrevues, puis c'est comme. Fait pas de sens, là. C'est ça.
Non, c'est ça. Puis tu sais, écoute, est-ce que Craig Gillespie est un grand réalisateur? Moi, je pense que tu sais, il doit beaucoup peut-être à d'autres films. Je pense pas qu'il y a énormément de moments où on peut dire définitivement, ok, ouais, il y a un cinéaste un peu derrière tout ça. Mais je t'avoue que moi, j'ai juste tellement été embarqué dans cette espèce de montagne russe là, de tu sais, on suit finalement un genre de personnage que contre toute attente devient la meilleure au monde, mais que toutes les cartes sont contre elle, puis au niveau familial avec sa mère, avec son chum, avec, mais en même temps elle est pas juste une victime non plus, tu sais, c'est quand même quelqu'un, je pense, qui c'est un personnage qui a de la matière, c'est un personnage qu'on aime détester, mais on la déteste pas non plus, tu sais, on est vraiment, on empathise avec elle. Donc je trouve que dans un film qui se veut un peu pop, collage pop, je trouve que à toutes les petites embrasures où on peut ouvrir une porte émotive ou complexe, je trouve qu'il les prend, tu sais, la première scène, par exemple, où les deux personnages, Tony Harding et son futur mari, qu'on connaît l'histoire un peu, qu'est-ce qui va finir par se passer avec le mari, mais, tu sais, dans une économie de moyens, je trouve qu'on nous ouvre énormément de portes sur une réalité américaine. Je trouve que c'est un grand... Finalement, au final, je trouve que c'est un grand film américain, tu sais. pour le meilleur et pour le pire, dans la façon comment c'est fait, dans ce que ça dit. Puis ça parle des médias, ça parle des gens qui ont leur opinion sur les histoires, sur les vedettes. C'est vraiment moins con que ce que ça paraît. Puis c'est vraiment franchement entertaining. Le 2 heures, on le voit pas passer. Moi, je te jure, là, j'en suis sorti. Écoute, il y a peut-être de la poudre aux yeux, mais honnêtement, je me suis fait aveugler, puis j'ai vraiment franchement embarqué. Puis pourtant, je sais que le film a été critiqué aussi. Fait que je suis vraiment curieux d'avoir votre avis à vous deux. Mais moi, j'ai vraiment été extrêmement séduit par Aitonia. J'ai trouvé ça franchement fort.
Hmm. Toi, Rémi, est-ce que t'es outil enthousiaste?
Ben, c'est une déconstruction du biopic. Puis ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis même chose, là, je suis sorti du film vraiment énergisé. Là. C'est non-stop. Donc, puis tu disais, la réalisation, je suis peut-être pas, mais je pense pas que c'est vrai. Il y a des scènes que j'ai trouvé vraiment entertaining là, au niveau visuel, il y a des super belles idées dans la réalisation. C'est très tape à l'œil là, mais c'est efficace dans ce que c'est. Ouais. Parce que ça reste un biopic en marge. J'essaie pas de faire un biopic traditionnel A B C D E F G, on raconte son histoire hyper linéaire. C'est let's go, on met tout le tu parlais de poudre aux yeux là, mais on met le paquet pour épater le public, puis that's it là. Tu sais, les scènes de patinage artistique aussi t'es sur la glace avec elle, puis c'est vraiment impressionnant comment c'est fait là, tu sais.
Ouais, absolument.
J'ai entendu la critique là, qu'il y en a que ça a dérangé le tracking de la face de Margot Robbie là. Honnêtement, ça m'a pas c'était pas la moustache d'Henry Cavill dans Justice League là, c'était vraiment non, mais pour moi c'était juste comme J'étais là avec elle, là, j'étais sur la glace avec elle, puis j'étais vraiment épaté, là, puis tu sais, je suis pas... Bon, vous savez, là, je suis pas un grand sportif, là, je suis pas un amateur de sport, là, mais tu sais, quand tu réussis à me faire care à propos d'un sport comme ça, puis d'une compétition sportive, je suis full on avec vous autres. Puis tu sais, puis il y a des bons personnages secondaires aussi, puis il assume le côté cabochon cartoon, là, espèce de bodyguard, là, qui est tellement drôle, show, là.
Lui, je pense que c'est vraiment le
incroyable, MVP, là. Malade, puis tu sais, puis... Tu le regardes, puis tu fais comme, OK, ils ont craqué la note là, pour que ça soit drôle. Puis finalement, tu vois les extraits d'entrevue à la fin, puis il dit exactement la même affaire. Non, puis il est pareil.
C'est ça.
Le comédien, il est pareil. Il a juste joué la même chose. Puis c'est comme, shit, c'est même pas une caricature. Là. C'est ça qui s'est passé. Là.
Il est craqué à 11, ce personnage-là. Il y a une scène, il est genre là, en train de manger des chips en bedaine derrière une voiture. Puis il parle de ses histoires de services secrets, puis d'espionnage.
Oh, puis genre,
tu sais, t'es comme, voyons, ça peut pas. T'sais, moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai un peu décroché pour raccrocher très tôt après. Mais tu sais, j'ai comme fait, ah ouais, OK, on est vraiment dans du grotesque. Là. Mais.
Ouais.
En même temps,
c'est une espèce de scène à un moment donné où tu vois, t'sais, faut pas qu'il parle de ce qui s'est passé, puis tu vois lui qui parle de ce qui s'est passé là. Pis ça fait très Scorsese là, des quick cuts, c'est tellement drôle là, ce bout-là, là, c'est comme c'est une des bonnes scènes du film là. Mais c'est ça, puis sinon, juste dire que tous les comédiens sont hallucinants là-dedans là. Margot Robbie est juste, je veux dire, elle crève l'écran, puis c'est Allison Jenny, c'est le nom de sa comédienne qui joue. Sa mère là,
Allison Jenny,
c'est des personnages tellement puissants, c'est des personnages puissants en fait là. Ça, c'est sûr que les acteurs, il y avait quelque chose à jouer là. C'est pas juste une performance sur un texte moyen, c'est qu'il y avait vraiment des personnages très tracés à gros traits là. Mm-hmm. Mais tu sais, les acteurs savent quoi faire avec ces personnages là, puis ça marche là, tu sais, ça marche super bien là. Mm-hmm. Fait que ouais, moi tout, ça a été un gros coup de cœur là. Puis comme tu dis, je vole beaucoup de tes mots, là, mais pour le meilleur, pour le pire, parce que c'est sûr que c'est pas un biopic traditionnel qui cherche à discerner la réalité, puis de tout te donner exactement les faits. Non, c'est on y va, là, on met le paquet, puis on fait quelque chose d'entertaining avec cette histoire-là, puis c'est réussi, là, vraiment réussi. C'est un film qui se recommande facilement aussi à quelqu'un qui est peut-être pas dans du cinéma... cinéma d'auteur, ou tu sais, c'est un film très, très, très accessible.
Oui, absolument. Toi, Paul, t'es plus nuancé?
Ben, j'aimerais ça être aussi enthousiaste que vous, puis je vais peut-être sonner plus négatif que ce que je suis réellement, parce que j'ai quand même apprécié le film, mais il y a tellement de choses que vous dites que j'en reviens pas que ça vous a autant emballé. Là. Quand j'entends les mots « grand film américain », j'avoue que j'ai un peu les poils qui retroussent. Mais, tu sais, notamment, on parle de Scorsese, là, puis... J'ai regardé ce film-là, puis je pouvais pas m'empêcher d'imaginer, genre, tu sais, la scène d'ouverture de The Player, puis les différents pitchs. Puis c'est clair qu'il y a un producteur qui est arrivé devant, genre, Amy Pascal, ou je sais pas quel gros producteur, là, puis qui a dit, imagine, genre, Wolf of Wall Street on Ice. Puis là, c'est comme ça s'est vendu là, là, tu sais. Puis l'affaire, c'est que c'est sûr que ça, c'est toujours un bon concept de jouer sur les contrastes, tu sais. Puis tu dis, on prend le monde ultra fermé, ultra, genre, codifié du patinage artistique, mais on en fait une version redneck, tu sais. C'est une bonne idée de base, mais je trouve pas que le film propose tellement plus que ça. Il y a vraiment une réflexion intéressante sur la violence conjugale. Puis il y a vraiment des scènes quand même assez chocs là-dessus. Puis même aussi sur la violence parentale, là, un peu plus psychologique, mais aussi physique. Et ça, c'est quand même des scènes chocs, mais on dirait qu'on n'ose jamais vraiment aller trop là-dedans. T'sais, c'est juste comme en filigrane, puis ça fait partie de sa vie. Puis dans le fond aussi, bon, pas que j'avais besoin que le film devienne une espèce de pamphlet, genre « protégeons-nous » puis « dénonçons » les gens, tout ça. Mais j'ai l'impression vraiment que le film était comme tout le temps trop comme... aveuglé par sa propre, tu sais, son propre cleverness, là, à quel point, genre, tu sais, je pense que le film, se, genre, tu sais, comme, j'ai regardé ce film-là, puis j'ai l'impression de voir un oncle cool, tu sais, comme, qui essaie trop d'être cool, puis de parler le langage des jeunes, d'être le fun, là, tu sais, puis je suis comme, man, t'essaies vraiment fort d'être Scorsese, puis d'être, genre, les frères Coen, mais t'as juste pas, ou les Soderbergh, ou je sais pas quoi, mais t'as juste pas la même finesse, puis le même talent, tu sais, puis... Parler des scènes de passage artistique, puis c'est sûr que c'est un peu unfair parce que, mettons, c'est pas un sport que moi me fait triper. Mais tu sais, si on compare avec un film comme Raging Bull, tu sais, Raging Bull, là, les scènes de boxe sont toutes distinctes, qui ont une valeur émotive, la mise en scène fait sens avec le message de telle séquence. Puis là, j'ai vraiment trouvé que c'est répétitif rapidement. T'sais, oui, la première fois, c'est genre impressionnant parce que t'as tout un gros travail numérique, parce que dans le fond, la caméra, plutôt que d'essayer de, mettons, d'imiter un vrai événement olympique puis d'être loin, tout ça, ben là, t'as l'impression qu'il y a vraiment un patineur autour d'elle, puis il y a eu plein de... Bon, ça, moi, je l'ai beaucoup senti, le digital. Là, tu dis, Crémy, ça t'a pas dérangé, mais tu sens que ces séquences-là sont truquées, puis... c'est comme...
Ouais, mais c'est sûr que si tu décroches puis tu penses à ça, tu veux dire, tu les vois, là, les trucages, là.
Ouais, mais...
tu vas voir un show de magie, puis tu penses aux cordes, puis à tout, c'est... Mais quand tu
te laisses... Ouais, bon show
de... Je me suis vraiment laissé emporter là-dedans, puis j'ai comme pas eu du tout le...
Mais,
j'ai pas eu ce déclic-là.
Mais t'sais. Un bon magicien va me faire oublier de penser à ça, va tellement me divertir que j'aurais pas à réfléchir, tu sais. Là, c'est juste que il y avait des effets spéciaux qui étaient vraiment, je trouve, mal intégrés, puis j'étais comme... Puis je pense que c'est ça, il y a comme trop de mouvements et puis on a trop essayé d'être dynamique, tu sais, puis on dirait que ça cache, je trouve, une certaine... Justement, ça cache un certain creux, tu sais, scénaristique ou narratif ou... ceci dit, par contre, tu sais, le personnage principal, tu sais, c'est vraiment cool, ouais. C'est vraiment un beau rôle, Margot Robbie est super bonne, puis tu sais, même aussi, tout le travail artistique, plus... du niveau des costumes, des maquillages, du make-up, tout ça, des coiffures.
C'est super
bon.
Les textures de peau, là, moi, je capotais le niveau make-up, là, parce que les peaux, ils ont des textures, genre... C'est comme des textures télé 90s, là. Mm-hmm. C'est comme du réel, mais tu sais que c'est du make-up parce qu'ils ont pas le choix d'être make-upés au cinéma, là. Mais t'as comme les freckles, les pores de peau, tout est comme méga détaillé, là. Genre, j'ai vraiment trippé sur... C'est rare que je remarque ça, là, mais... Il y a vraiment du travail de make-up de fou, mais c'est tout subtil, là. Ça a l'air d'être vraiment des vrais peaux, là. C'est en tout cas, ouais. C'est... Tu sais, c'est pas Hollywood clean, là. Tout est comme un peu dirty. Ouais, en tout cas.
Sinon, tu sais, c'est ça. Il y a des scènes fortes dans le film, mais moi, je l'ai quand même senti la durée. J'ai trouvé que c'était un peu trop... Ce qui m'a cassé le plus, je pense, c'est que je suis un peu tanné des films qui se veulent plus cool que tout le monde. Tu sais, genre, moi, ce film-là, ça m'a fait penser à Deadpool avec, genre, les regards caméra, puis comme, ben là, vous le savez bien que j'ai pas pu faire ça. Puis la mère, à un moment donné, qui dit au spectateur, hey, qu'est-ce qui se. Ou en fait, elle parle au narrateur plutôt, puis elle dit, bon, ça a l'air que mon backstory, on n'en parle plus, fuck you, tout ça. Puis tu sais, je suis comme, ah, ok, ouais, haha, c'est drôle, mais comme, j'ai vraiment pas embarqué, puis. Puis je trouve qu'il y en a trop, en fait, trop d'adresse aux spectateurs. Ça vient comme tuer un peu le côté novateur de la chose. Puis c'est ça, je trouve que ça manque de balance, ce film-là. Ça manque un peu de recul. Puis c'est comme, c'est non-stop, OK, mais tu sais, j'ai plutôt l'impression de, tu sais, manger des nachos, boire du Mountain Dew, aller dans les montagnes russes. Puis tu sais, là, je sors, puis je suis comme, bon, ben, j'ai vécu beaucoup d'émotions, tu sais. Mais en fait, c'est pas nécessairement de l'émotion que j'ai vécu. Tu sais, j'ai juste été brassé. Mes sens ont été comme, tu sais, un peu violés, là, tu sais. Fait que...
mais...
Notre première analogie de l'année.
Non, mais c'est déjà une analogie. C'est déjà une analogie. Non, mais écoute, c'est correct. Puis en plus, je le sais que son espèce de... que sa coquille peut finalement faire... C'est justement, tu parles de montagne russe. T'sais, soit t'embarques ou, je pense, soit t'embarques pas dans un sens parce que j'ai l'impression que tout ce qui peut un peu plaire, tu sais, peut aussi agacer dans ce film-là. Genre, il y a définitivement quelque chose d'un petit peu poseur. Mais moi, en fait, c'est que... Ah, moi, ça m'a... Puis ça, c'est le signe, je crois, d'un film intéressant quand même au final. C'est que, bon, t'as vécu une expérience, soit. Mais moi, là, je me suis retrouvé... Écoute, je me suis retrouvé à regarder le 30 for 30 d'ESPN. Tu sais, que parce qu'il y a eu un 30 for 30 sur Tonya Harding qui a d'ailleurs inspiré le scénariste à faire I, Tonya, puis il a acheté l'histoire, juste pour la petite histoire, là, il a acheté l'histoire de Tonya Harding pour 1500 pièces US seulement. Là. C'est genre, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me suis vraiment retrouvé après ça à être genre, à rôder sur Wikipédia, à checker des documentaires. Je trouve que c'est vraiment une histoire excessivement intéressante. Mm-hmm. Le cœur de cette histoire-là, puis ce que ça dit sur les médias, sur l'univers de la compétition, sur le rêve américain, c'est excessivement riche. T'sais. Puis c'est comme si, j'entends tout ce que tu dis, mais moi je trouve quand même que malgré tout le tape à l'œil, il y a une richesse thématique dans ce film-là. Puis oui, c'est la richesse de l'histoire, mais moi, je trouve que l'histoire m'a fasciné, ouais. Là, à un niveau, à l'os, là, tu sais, genre, je te dis, je suis devenu un expert de Tonya Harding, là, depuis que j'ai vu I, Tonya, là. Vraiment, là, tu sais,
fait. Puis en fait, c'est ça, c'est que, parce qu'aussi, bon, j'avais fait un peu une blague sur mon statut Facebook, mais le film m'a vraiment beaucoup fait penser à Molly's Game d'Aaron Sorkin avec
ouais.
Jessica Chastain.
Ça, j'ai pas vu encore.
Vu, c'est ça, les deux, je les ai vus à quelques semaines d'intervalle, là, peut-être à deux semaines d'intervalle, puis, bon... Molly's Game aussi a des problèmes, notamment, contrairement à tous les autres films d'Aaron Sorkin, où t'as une autre personne derrière à la réalisation qui peut un peu faire le tri, puis dire ça, ça marche moins, ça, ça marche mieux. Le film dure 2h20, puis t'as l'impression qu'Aaron Sorkin adore son dialogue, là, puis comme il peut pas couper une seule page puis une seule ligne. Là. Fait que c'est un peu complaisant, mais... puis c'est très drôle, il y a tellement de parallèles, parce qu'il y a notamment une scène de patinage où il y a des effets spéciaux vraiment mal intégrés dans le film. Mais bon, ça, c'est la petite histoire. Mais c'est également un autre biopic non conventionnel sur une femme forte. Puis tu sais, aussi, tant mieux, hein, parce qu'on a tellement charlé depuis longtemps, tu sais, sur comme... c'est juste sur des hommes blancs qui ont les mêmes problèmes. Bon, là, c'est juste des femmes blanches, mais reste que, tu sais, c'est un autre point de vue qui est intéressant, tu sais, puis c'est déjà un pas de plus vers la diversité, j'imagine, au cinéma. Mais, mais moi, je trouve qu'à la comparaison, Molly's Game en sort gagnant, parce que, notamment, il y a un peu moins d'effets de style tape à l'œil, tu sais. Bon, c'est ça. Puis Molly's Game en a aussi quelques-uns, quelques adresses aux spectateurs qui me gossent un peu ou qui sont inutiles. Mais bon, écoutez, c'est quand même... Tu sais, honnêtement, j'ai dit ça un peu en réaction à votre éloge, c'est plutôt ça, parce que j'ai quand même bien aimé le film, puis je le recommande. Mais pour moi, c'est absolument pas un des grands films de l'année. Puis en ce moment, il y a tellement de films au cinéma. Tu sais, Pascal, t'avais fait un peu... T'avais énuméré les films qu'il y avait à l'affiche. Puis tu sais, moi, ce serait pas le premier que j'irais voir. Tu sais, I, Tonya, puis mettons The Post. Tu sais, c'est des bons films, là. Ça vaut la peine, mais genre... Tu sais, allez pas voir ça avant d'avoir vu comme les principaux, là, genre, notamment Phantom Thread, qu'on va peut-être parler au prochain podcast, j'ai l'impression, qu'on manque de temps.
Oh non!
Puis, non, j'ai pas encore vu, laissez-moi la chance de voir.
Puis de Shape of Water aussi. Et d'ailleurs, bon, moi, je suis jamais comme le plus grand fan des Oscars, là, mais on peut-tu dire que...
Le line-up cette année, genre, yo, pour vrai, c'est une série de films, les films nommés meilleurs films cette année, moi, en tout cas, je pense qu'on peut quasiment parler d'un des meilleurs line-up. Depuis les années 70.
Puis tu sais, à quel point, honnêtement, là, à quel point c'est étonnant, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, là, mais Shape of Water, OK? Un film dont le personnage principal est une femme muette qui a une sorte d'amour inter-espèce réalisé par un Mexicain et le film avec le plus de nominations aux Oscars, là. Tu sais, c'est quand même surprenant.
Tellement content, là. On vit dans une belle époque, là.
Non, mais attends,
hey, le speech de Del Toro au Golden Globes, là, c'est pour vrai, j'avais les larmes aux yeux. Là. Il est tellement adorable, là, cet homme-là. Il est magique. Là. Il remercie les monstres des histoires, puis il remercie Lon Chaney. Là. Il est attachant. Là. Il est tellement attachant. Il avait les larmes aux yeux, puis il était... moi, ça m'a vraiment touché, là, son speech. Là.
Mais regarde, juste, peut-être on peut finir avec ça, mais tu sais, nommons-le en rafale un peu. Moi, j'ai pas vu Darkest Hour, c'est le seul que j'ai pas vu. Je vais essayer de l'attraper avant. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Darkest Hour avec Gary Oldman.
Il y a beaucoup à rattraper.
OK.
Là.
Mais tu sais, je veux dire, puis Phantom Thread, que je vais voir aujourd'hui.
T'as pas vu Phantom Thread, ouais.
Ouais, je vais le voir tantôt, par contre. Mais tu sais, sinon, je veux dire, Call Me By Your Name, un magnifique film. Tu sais, je veux dire, qu'un film comme ça se retrouve là, c'est genre, waouh, bravo, rien à dire. Bon, Dunkirk, vous le savez, si vous écoutez le podcast, on n'est pas nécessairement les trois, c'est vraiment drôle, mais les trois, on n'est vraiment pas particulièrement de grands fans, mais le film fait des choses quand même superbes puis remarquables. Pis,
ben, moi, je l'ai dit au dernier podcast, mais je regrettais un peu d'être allé aussi rough parce que, sérieux, c'est comme un. C'est un trip de mise en scène puis de. T'sais, c'est un film unique, là. Ça ressemble à rien, Dunkirk. Il n'y a aucun film de guerre qui ressemble à ça. Là.
Mais encore là, je veux dire, c'est pas un film traditionnellement à Oscar malgré l'espèce de star
power. Non,
c'est
ça, exact. C'est un film d'auteur de
c'est
guerre.
Ça, de Christopher Nolan. Fait que, tu sais, bon, Get Out, que ça se ramasse là, d'un film de genre.
Mais attends, moi, il y a juste une affaire, je veux dire, là, ça me fait vraiment chier. Parce que j'ai entendu souvent le monde faire « Ben non, Get Out, c'est pas un film d'horreur. » Il y a plein de monde qui sont pas capables de dire que c'est un film d'horreur parce qu'ils ont aimé ça puis parce que ça se retrouve aux Oscars. « Ah, c'est un suspense, c'est un thriller, mais c'est pas un film d'horreur. » Mais comme... Guys, s'il vous plaît, là, genre... On peut-tu se le dire, là? Il y a comme... Si tu vois le film, il y a même il y a des éléments surnaturels, là. Il y a du gore, il y a du surnaturel, il y a genre des grosses scènes de tension. C'est un... Tu peux-tu être plus film d'horreur que ça, là? J'écoutais un autre podcast puis il était pas capable de dire le mot horreur. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est je veux dire, c'est quoi un film d'horreur si c'est pas Get Out, là? C'est pas parce que des jokes que c'est, t'sais, Evil Dead, c'est un film d'horreur puis il y a des jokes, là. Je sais pas, en tout cas.
Non, ben oui,
Evil Dead, c'est un drame psychologique, Rémi.
c'est ça. T'as pas compris. C'est une métaphore de société. Ok. Je continue la petite admiration. Bon, Lady Bird, on avait déjà parlé. Moi, je suis pas particulièrement fan. Toi, Paul, j'ai vu qu'il a retenti dans ton top 10. Fait que visiblement, toi, t'as beaucoup aimé. Mais tu sais, globalement, je pense qu'on peut quand même s'entendre les trois que tu sais, c'est un beau film. Tu sais, si c'est ça, le petit film indie quirky qui est nommé, genre, c'est quand même, ça vole vraiment plus haut que beaucoup d'autres. Là. On le compare, puis on.
C'est ça, un jeu de mots, ça? Lady Bird, ça vole vraiment plus haut?
Non, je l'avais pas remarqué. Phantom Thread, je l'ai pas vu, dites-moi rien, j'ai fucking hâte, je vais le voir tantôt, on s'en reparle. The Post, écoute, bon, ça c'est la royauté hollywoodienne qui revient, c'est Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks, blabla. Je l'ai vu, ça va, c'est pas... Mais en même temps, ça met le doigt sur quelque chose de contemporain,
c'est
important.
Un film important présentement. Là.
Regarde, c'est correct. T'sais, si c'est ça l'espèce de film un peu plus politico-standard, film à Oscar, entre gros guillemets, c'est quand même pas le pire non plus. Fait que, OK. Shape of Water, on en a parlé. Que ça se retrouve là, encore une fois, chapeau. Two Billboards, personnellement, moi, j'ai pas beaucoup aimé, mais même chose, je pense que ce que ce film-là a à dire, puis ce que ce film-là fait, c'est quand même très, très, très remarquable.
Moi, j'ai lu plein de critiques sur ce film-là. Genre, je l'ai pas vu encore, là, mais j'ai lu tellement de gens qui ont capoté sur ce film-là, comme un de leurs films de l'année, puis... Moi, je suis quand même curieux de le voir. Je vais essayer de le voir avant les Oscars. Là.
Mais je pense quand même que globalement, là, je regarde juste les yeux sous les yeux, puis je regarde cette liste de films-là. Bon, Darkest Hour, Phantom Thread, je vais les rattraper avant la cérémonie, mais genre, il y a de quoi s'enthousiasmer, je pense. Il y a de quoi s'enthousiasmer malgré tout, puis faut relativiser l'importance des Oscars. Oui, on le dit tout le temps, mais genre, OK, tu sais, il y a des bons films, là. Le cinéma n'est pas mort. Voilà.
C'était beau, ça, Pascal. Donc, sur ces belles paroles... nous, on va se quitter. On va aller écouter la bande-annonce du film qui m'intrigue beaucoup, en fait. Film Stars Don't Die in Liverpool, de Paul McGuigan. Ça a l'air très bon, ce film-là. C'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andréo et j'étais avec mes collègues...
Rémi Fréchette
et Pascal Plard.
You're the next door guy, right?
What makes you the girl next door?
I need a partner for my dance class. If I make you a drink, you come into my room and hustle with me.
If you fix me a drink, I'll come in and clean your bathroom.
So, is this like a date?
You look beautiful.
That's Gloria Graham. Big name in black and white films.
Proper star she was. I recognise that pal. Won an Oscar too. It's unbelievable.
The air is just full of...
Hollywood horseshit.
What kind of a person hangs out in a joint where you're labelled on the lampshade anyway?
Spoke to the doctor. He's told me what's wrong with you.
Could you take me to Liverpool? I could get better there.
Gloria, no. You should have given me some warning. I have to put the electric blankets on.
Big fans of Gloria, me and your mum.
She's so bloody beautiful.
Those movie idols don't just wither away.
We never expected Gloria Graham in our kitchen, necking a bacon butty.
And I make you feel,
Peter,
like you,
you are all I need.
Bloody heartbreakers, the lot of you. But I'll tell you that when your legs are laced up in stirrups.
Say it again, Peter.
Liverpool.
Oh. You know
you got it. Has anyone ever told you you look like Lauren Bacall when you smoke?
Yeah. Humphrey Bogart.
Oh.
I don't like it then either.